Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce dimanche 17 mai. En Australie, le Victoria pourrait rouvrir les restaurants, les cafés, les pubs dès le mois prochain. La campagne de dépistage du Covid-19 se poursuit en France. L'objectif est de faire 700 000 tests par semaine. Sport, l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont savoir dans les 6 semaines qui viennent si elles accueilleront la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. En Australie, les habitants du Victoria pourront savourer un repas dans les restaurants, les cafés et les pubs à partir du 1er juin prochain, alors que le gouvernement de l'État assouplit davantage les restrictions. Les restaurants sont autorisés à rouvrir le mois prochain à condition qu'ils respectent une limite de 20 clients. Le nombre pourrait être porté à 50 à partir du 22 juin, puis à 100 à la mi-juillet. La décision est basée sur les tests du gouvernement du Victoria de quelques 60 000 personnes cette semaine, avec un faible nombre de tests positifs pour le coronavirus. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, prévient que les restrictions vont être levées de manière sûre et prudente.
This will only work if those who are going out to a cafe or going out for a meal at a restaurant or going to the bistro in a pub actually follow those rules, do the right thing, take these things seriously. Of course, venue owners, those who work in venues as well, they'll have to make sure that they're following the rules also. But I'm very confident that people are keen to get back to work when it comes to this critical sector, a sector that arguably is more important to Victoria than some other places.
La chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, appelle les États et territoires à rouvrir leurs frontières pour faciliter les voyages. La plupart des États et territoires ont mis en place des contrôles stricts pour freiner la propagation du Covid-19. Alors que l'accent est sur la relance de l'économie, Madame Berejiklian affirme que son État a subi les plus grandes pertes d'emplois dans le pays et que ses secteurs du tourisme et du commerce international ont été les plus durement touchés. Elle a déclaré sur le programme Sky Agenda que l'ouverture des frontières entre les États encouragerait le tourisme local et va améliorer les chaînes d'approvisionnement en Australie.
So the sooner the borders come down, the better. And I'm certainly looking forward to that. I don't want to be able to say to people, I'm allowed to go to Auckland before I can go to Brisbane or before I can go to Perth. So I'd really like to see those borders come down because just that trade and commerce and flexible workforce across the states will boost our economy no end.
35 résidents d'une maison de retraite du Queensland ont été évacués après qu'une infirmière ait été testée positive pour le Covid-19 jeudi dernier. Le groupe de résidents de North Rockhampton Nursing Home a été emmené dans deux hôpitaux hier soir pour faire de la place aux autres résidents pour leur permettre de s'isoler. La maison de retraite fera l'objet d'une enquête après que l'infirmière est allée travailler alors que les résultats de son test n'étaient pas connus. Le ministre de la Santé, Stephen Miles, a déclaré que 193 résidents et membres du personnel ont été soumis à des tests rapides et qu'ils ont tous été testés négatifs au coronavirus. Le ministre du Commerce, Simon Birmingham, a rejeté les allégations selon lesquelles la pression de l'Australie en faveur d'une enquête mondiale sur la gestion du Covid-19 par la Chine a conduit à des tensions commerciales entre les deux pays. La Chine a interdit les importations de bœuf de 4 abattoirs australiens et menace d'imposer des droits de douane élevés sur les importations de l'orge après une enquête anti-dumping. Simon Birmingham a déclaré sur le programme Insiders de l'ABC ce matin que la question est de longue date. Le ministre déclare qu'il a essayé de parler à son homologue chinois, mais n'a reçu aucune réponse pour le moment.
We've made a request for me to be able to have discussions with my Chinese counterpart. Now that request has not been met with a call being accommodated at this stage. I'd make the point, David, that the Australian government is always open for thoughtful and engaging dialogue with our international partners, including where we may disagree. And it is ultimately up to them as to whether or not they decide to reciprocate in kind.
Les enfants au Royaume-Uni seront de retour à l'école à partir du 1er juin prochain dans le cadre d'un retour progressif. Le secrétaire à l'éducation Gavin Williamson affirme que les écoles doivent respecter des normes strictes d'hygiène, de nettoyage et de lavage des mains et que les enfants et leurs familles seront testés s'ils présentent des symptômes du virus. Selon Gavin Williamson, les mesures aideront à réduire le risque de transmission de COVID-19. Il y a eu près de 34 000 morts en Grande-Bretagne.
I know a lot of you will be worried about sending your children to school. Every one of us wants the very best for our children. And I know how stressful this time has been for all families right across the country. I want to reassure you that this approach is based on the best scientific advice, with children at the very heart of everything that we do.
La moitié des régions de New York commence à rouvrir. Il s'agit de la première partie d'un plan échelonné avec le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, promettant que les plages seront ouvertes d'ici les vacances du Memorial Day le week-end prochain. Selon Andrew Cuomo, le nombre d'hospitalisations a diminué alors que l'État durement touché enregistre un nombre de morts de plus de 28 000 personnes.
We just don't want to make sure we don't go back to the hell that we've gone through. And when we talk about reopening, that's a discussion. We have half the state now in terms of regions, which is now in the process of reopening.
L'Espagne cherche à renouveler son état d'urgence alors que le nombre de morts de coronavirus dépasse les 27 500 personnes. Le Premier ministre Pedro Sanchez a déclaré que ce serait la dernière après que 4 extensions précédentes de l'état d'urgence aient été soumises au Parlement. Des protestations contre la gestion de la crise par le gouvernement ont éclaté dans la capitale du pays, Madrid, plus tôt dans la semaine. Des membres du public ont appelé à la démission du gouvernement de coalition de gauche de Pedro Sanchez. Premier week-end déconfiné en France. Les Français commencent à profiter de l'extérieur. De nombreuses plages sont autorisées à rouvrir, mais pas question de se bronzer ou de pique-niquer. Reportage de Stéphane Burgat pour Radio France Internationale.
Aucun problème pour faire respecter les distances de sécurité. Peu de monde sur le sable, encore moins dans l'eau, si ce n'est quelques habitués comme Sylvie.
Elle est bonne. Hein. Ben, mon dernier bain, il date du 17 mars. Hein. Elle était à 12, alors forcément, là, elle doit être 18-19, je me suis régalée. J'ai nagé au moins une heure, là. Oh non, mais ça me manquait trop. Le bonheur.
La fréquentation est faible en raison de la météo et d'un message brouillé auprès du public. Les plages ouvrent progressivement jusqu'à la fin du mois. Résultat, certains, comme Christophe, s'installe mais sans être certain d'y être invité.
C'est un peu bizarre, ouais, parce que nous, on est allé au Lavandou, par exemple, c'était fermé. J'étais pas sûr que c'était ouvert, donc voilà, on en profite. Un petit pique-nique, petite salade composée dehors la mer. En plus, il n'y a pas grand monde, donc tant mieux.
Aperçus au large, les jet-skis, les kitesurfers sont bien là. Un retour à la normale lent, mais rassurant pour le maire de la Londe, François de Canson.
On a encore franchi une étape. Il y a des gens qui font du jogging. Il y a des bateaux, il y a des promeneurs, il y a des baigneurs. La vie reprend son cours et ça laisse un espoir pour le redémarrage de la saison touristique.
Et le vrai top départ, selon lui, c'est le week-end à rallonge à venir de l'Ascension.
La campagne de dépistage se poursuit en France et l'objectif est de faire 700 000 tests par semaine. Les PCR sont privilégiés pour ce test car ils détectent la présence du virus au moment même du dépistage. Mais les autorités françaises ont des difficultés avec la livraison de matériel par une compagnie chinoise. Explication de Nicolas Roca pour RFI.
C'est grâce à des écouvillons, ces longs cotons-tiges que l'on insère dans le nez des malades, que l'on peut réaliser les fameux tests PCR. Il en existe de différentes sortes, ceux de référence adaptés au nez, ce sont les plus précis, ceux que l'on recommande d'utiliser en France. D'autres permettent la réalisation de prélèvements dans la gorge des malades, mais ont une sensibilité de détection inférieure et présentent parfois un fort risque de faux négatifs. La société chinoise MGI a livré 20 robots à la France, accompagnés d'un stock important d'écouvillons compatibles. Mais nos confrères de Radio France ont appris qu'1 million d'entre eux ne sont pour l'instant pas utilisés car ils permettent des prélèvements que dans la gorge des malades et sont jugés pas assez précis. Pour l'instant, les CHU équipés de ces robots chinois n'ont pas de problème de stock, mais cela pourrait malheureusement bientôt être le cas, car les livraisons d'écouvillons sont gelées. Le ministère de la Santé recherche des solutions, tente d'obtenir le matériel adapté, mais attend surtout l'avis de la Société française de microbiologie afin de déterminer si ces stocks seront ou non utilisés.
Le président français Emmanuel Macron se rend ce dimanche dans l'Aisne pour célébrer la bataille de France et les combats de Montcornet menés par Charles de Gaulle le 17 mai 1940. Reportage Valérie Gasse, RFI.
Mettre ses pas dans ceux du général de Gaulle au moment où la France livre un combat inédit contre le coronavirus, c'est forcément symbolique. Et les symboles, Emmanuel Macron aime en user. D'ailleurs, dans son entourage, on assume que de Gaulle ait inspiré Macron. L'esprit de résistance, le dépassement, la notion d'unité, tout cela fait écho en lui. Pour autant, à l'Élysée, on prévient qu'il ne faut pas voir dans cette commémoration le moment d'une refondation politique pourtant attendue. L'objectif affiché, c'est de reprendre le cours de la vie mémorielle et de lancer l'année de Gaulle, dont les commémorations étaient prévues et dont Montcornet est la première étape, avant les cérémonies des 80 ans de l'appel du 18 juin et des 50 ans de la mort du général en novembre. Dans l'Aisne, Emmanuel Macron veut rendre hommage aux de Gaulle avant de Gaulle, aux colonels visionnaires, mais aussi aux soldats français qui ont combattu et dont le courage est resté dans un angle mort de l'histoire, qui a surtout retenu la défaite. Le chef de l'État reprend le fil rouge de sa politique mémorielle avec l'exaltation des héros français, comme pour rappeler que c'est le combat et l'union qui comptent pour sortir des crises.
Félicien Kabuga, soupçonné d'être, je cite, le financier du génocide au Rwanda qui a fait au moins 800 000 morts en 1994, a été arrêté hier samedi près de Paris. Reportage Coralie Pierre, RFI.
C'est la fin d'une longue cavale pour Félicien Kabuga. Âgé de 84 ans, cet ancien homme d'affaires rwandais a été interpellé ce samedi matin par les gendarmes français. Il vivait sous une fausse identité dans un immeuble d'une rue résidentielle d'Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne. Félicien Kabuga résidait déjà depuis plusieurs années sur le territoire français, a indiqué à RFI une source judiciaire à La Haye. Pour retrouver la trace et arrêter celui qui est considéré comme l'architecte financier du génocide rwandais, l'enquête a duré 2 mois, alors que Félicien Kabuga a bel et bien échappé à la justice pendant 23 ans, malgré le mandat d'arrêt du tribunal pénal international pour le Rwanda émis contre lui en 1997 et malgré son fichage à Interpol. Après le génocide en 1994, il s'était d'abord réfugié en Suisse avant d'être expulsé. Il avait été ensuite signalé au Kenya, puis en Europe. Il aurait séjourné en Allemagne et en Belgique impunément, selon le communiqué du parquet de Paris.
L'anthropologue franco-iranienne Fariba Akhelpa a été condamnée à 6 ans de prison. Elle a été emprisonnée en Iran depuis juin 2019. Précision de Shiavoz Ghazi pour RFI.
C'est une peine particulièrement lourde qui a été prononcée contre la chercheuse franco-iranienne Fariba Akhelpa, qui est détenue en Iran depuis juin 2019. Mais selon la loi iranienne, c'est la peine la plus lourde qui est appliquée, soit 5 ans de prison. Elle a toujours clamé son innocence. Selon son avocat, elle peut faire appel de ce verdict. Son procès a commencé le 19 avril dernier. Ses amis espèrent qu'elle pourra être libérée, comme son compagnon Roland Marshall. En effet, ce dernier, arrêté en même temps que Fariba Akhelpa, a été libéré lors d'un échange de prisonniers avec la France fin mars. Il avait été condamné à 5 ans de prison. La pratique d'échange de prisonniers est devenue commune. Le même scénario s'est produit il y a quelques mois avec l'Australie et l'Iran a proposé un échange de prisonniers avec les États-Unis il y a quelques jours. En effet, 12 d'Iraniens sont détenus aux États-Unis et l'Iran détient des Américains et des Iraniens-Américains.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth où il fera 22 degrés, Adélaïde 20 degrés, Melbourne 17, Hobart 16, Canberra 17, Sydney 21, Brisbane 25, Darwin 34 et à Alice Springs il fera 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 17 mai. En Australie, le Victoria pourrait rouvrir les restaurants, les cafés et les pubs dès le 1er juin prochain. La campagne de dépistage du Covid-19 se poursuit en France. L'objectif est de faire 700 000 tests par semaine. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.